Et à 8h, c'est le journal présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'actualité marquée encore ce matin par la montée des tensions entre Washington et Téhéran et les craintes de riposte après la mort du général iranien Soleimani, tué par un tir de drone américain dans la nuit de jeudi à vendredi en Irak, alors qu'une nouvelle frappe a eu lieu cette nuit contre une milice pro-iranienne.
3 000 à 3 500 militaires américains supplémentaires envoyés dans la région.
Alors que Donald Trump a justifié hier sa stratégie pour lever une menace imminente d'attaque contre des intérêts et des personnels américains. Analyse à suivre depuis Washington et reportage aussi au Liban.
En Australie, les flammes ont déjà dévasté une surface supérieure à 2 fois la taille de la Belgique.
Plus de 6 millions d'hectares ont été détruits depuis septembre et les incendies pourraient encore s'amplifier. 100 000 personnes évacuées en prévision de ce week-end. Reportage à suivre à Canberra avec notre envoyé spécial Gaël Joly. Après un mois de grève en France, les opposants à la réforme des retraites comptent encore poursuivre leur mobilisation. Nous ferons le point sur l'état de cette mobilisation et la stratégie de la CGT avec Annabelle Grelier. Et puis votre invité dans les matins du samedi, Caroline.
Eh bien, Philippe Moreau-Desfarges, qui vient d'entrer dans ce studio, diplomate, chercheur à l'Institut français des relations internationales, il publie une histoire mondiale de la paix en ce début d'année. On se demandera si la paix a un avenir. Et surtout, bien sûr, nous reviendrons sur l'attaque ciblée à l'aéroport de Bagdad, ses causes et ses conséquences.
Quelles seront les conséquences de la mort du puissant général iranien Soleimani, tué hier dans la nuit de jeudi à vendredi par un tir de drone américain près de l'aéroport de Bagdad? Les réactions ont afflué à travers le monde, traduisant l'inquiétude d'un embrasement dans la région, alors que cette nuit, de nouvelles frappes ont visé une milice pro-iranienne en Irak, attaque immédiatement dénoncée sur place et attribuée aux États-Unis. Mais la coalition menée par l'américaine contre le groupe État islamique a cette fois démenti avoir à nouveau frappé. Les doutes, malgré tout, subsiste encore ce matin, car hier, en donnant l'ordre de bombarder le convoi où se trouvait le général iranien Qassem Soleimani, Donald Trump s'est aussi débarrassé d'un autre homme qu'il considérait comme l'homme de l'Iran à Bagdad, Abu Mehdi al-Mohandis, le numéro 2 des Hach al-Shaabi, des milices irakiennes au service de Téhéran. Les explications de Claude Guibal.
Retour en arrière, en 2014, les djihadistes sunnites gagnent du terrain en Irak. L'armée irakienne est sur tous les fronts. L'ayatollah Sistani, la plus haute autorité chiite du pays, appelle alors la population en renfort. C'est la création du Hach al-Shaabi, la mobilisation populaire, une coalition de milices citoyennes financée et formée de façon à peine cachée par l'Iran. Parmi elles, les puissantes Qatar Hezbollah. Leur patron devient vite le chef opérationnel des Hach al-Shaabi. Son nom, Abu Mehdi al-Mohandis, c'est lui qui a été tué dans le bombardement aux côtés du général Qassem Soleimani. Il était son bras droit en Irak, son affidé. Par voie de conséquence, un des principaux ennemis des États-Unis en Irak. Ce sont ces milices qui étaient en première ligne lors de l'attaque de l'ambassade américaine à Bagdad il y a 2 jours. Elle encore, derrière les tirs de roquettes. Après les Pasdaran, les gardiens de la révolution en Iran et le Hezbollah au Liban, c'est la 3e plus grande organisation de combattants sur laquelle peut s'appuyer Téhéran pour asseoir sa puissance dans la région.
Claude Guibal, des milliers d'Irakiens scandent « mort à l'Amérique » aux obsèques de Soleimani et de son lieutenant à Bagdad, on l'apprend à l'instant. Alors qu'hier, des milliers d'Iraniens ont manifesté à Téhéran pour dénoncer cette attaque américaine et saluer la mémoire de cette figure des gardiens de la Révolution. Au Liban, l'influence iranienne passe par le Hezbollah, à la fois milice et parti politique qui domine la communauté chiite libanaise. Son chef, qui était un proche du général Soleimani, a appelé à la vengeance. Les États-Unis ainsi que la France ont appelé leurs ressortissants à la prudence sur place. Notre envoyé spécial dans la région, Aurélien Colli, s'est rendu dans les quartiers chiites de Beyrouth, où le Hezbollah est très implanté, où cette colère qui domine les sympathisants est en train de monter. Reportage Aurélien Colli.
Assis dans sa boutique, en train de boire un thé, Hassan suit les réactions à la mort du général Soleimani sur la chaîne de télé du Hezbollah. Bien sûr qu'il était respecté parce qu'il nous aidait, nous les Libanais, face au danger israélien, commente le commerçant, en référence au rôle du général iranien pour coordonner l'aide militaire de Téhéran au Hezbollah libanais. On s'attend à des représailles de taille et c'est normal, si on ne répond pas aux Américains, ils se croient tout permis, donc il faut leur répondre, ajoute encore ce quinquagénaire, un désir de vengeance qu'on retrouve aussi chez Zeyna, croisé un peu plus loin. C'était un grand chef, on regrette sa perte, on est en colère, il faut une réponse forte de l'Iran à la hauteur du personnage, explique cette mère de famille. Un personnage discret, mais clé de voûte de l'influence iranienne dans toute la région. ici, au Liban ou dans la Syrie voisine, où il a supervisé le soutien militaire au régime de Bachar al-Assad. Il représentait l'Iran, il incarnait son appui, il a redonné du souffle au pouvoir et joué un rôle central dans l'alliance entre la Syrie et son pays, explique Mohamed, un Syrien qui travaille à Beyrouth. Beyrouth où le Hezbollah organisera dimanche une grande cérémonie d'hommage au général iranien assassiné.
Aurélien Colli.
Les États-Unis ont annoncé l'envoi de 3 000 à 3 500 soldats supplémentaires dans la région.
Rarement ces derniers mois, la tension avait été aussi forte entre les États-Unis et l'Iran. Qassem Soleimani était un proche du guide suprême Khamenei. Et hier, Donald Trump a expliqué qu'il ne souhaitait pas un changement de régime à Téhéran, mais qu'il avait décidé cette opération militaire pour lever une menace imminente d'attaque contre des intérêts ou des personnels américains. À Washington, décryptage de Grégory Phillips.
Donald Trump est l'homme du désengagement, notamment au Proche et au Moyen-Orient. Il est celui qui, depuis son élection en 2016 et même avant, a promis aux Américains de ramener les troupes à la maison. Il est enfin un président non interventionniste et qui jure souvent qu'il n'a aucune envie de continuer ou de se lancer dans des guerres coûteuses et interminables. Pourtant, en décidant l'assassinat du général iranien Soleimani, le même Trump sait qu'il prend le risque d'un conflit ouvert avec l'Iran. Et le Pentagone se voit donc contraint de dépêcher 3 000 à 3 500 soldats supplémentaires dans la région qui viennent s'additionner aux 14 000 militaires déjà envoyés en renfort ces 6 derniers mois. Pour justifier un tel effort, l'administration Trump explique qu'elle est certaine que le chef de la force Al-Quds préparait de nouvelles actions violentes contre des ressortissants ou des intérêts américains en Irak et dans les pays voisins. Et comme le résume le chef d'état-major américain, le général Milley, le risque posé par l'inaction surpassait celui posé par l'action.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Bonjour Philippe Moreau de Farge.
Bonjour.
Vous êtes ancien diplomate, spécialiste des questions internationales et de géopolitique, oui. L'invité des matins du samedi. Alors Donald Trump qui déclare mener cette stratégie donc pour éviter la guerre, que pensez-vous? C'est un paradoxe.
Donald Trump est parfaitement sincère et ce qu'a dit votre reporter à Washington est parfaitement juste. Le problème c'est que les États-Unis sont piégés dans la région. Il y a un héritage extrêmement lourd des États-Unis, leur présence en Iran, leur présence en Arabie Saoudite, premièrement. Deuxièmement, ils n'ont pas de partenaire solide. L'Arabie Saoudite est un drôle de partenaire. Quant à l'Irak, c'est un partenaire très équivoque. Donc, ils sont obligés de revenir vers un engagement direct, ce que ne voulait pas Donald Trump. Vous savez, l'histoire, et on en parlera tout à l'heure, est faite de guerres imprévisibles. Aujourd'hui, c'est clair, ce qui se passe en Irak, c'est un début de guerre. C'est un début de guerre. Et les États-Unis vont devoir s'engager dans cette guerre, alors que Trump ne le veut pas. Et alors, quels seront les résultats? Ils sont totalement imprévisibles, mais les États-Unis risquent d'y perdre beaucoup, beaucoup. L'Iran aussi perdra beaucoup. Mais vous savez, ce sont des guerres que personne ne gagne.
Merci beaucoup pour ce début d'analyse. Nous y reviendrons bien sûr après ce journal dans votre interview. Philippe Moreau de Farge, spécialiste de la politique internationale, auteur de l'ouvrage à venir, Une histoire mondiale de la paix. Vous serez avec Caroline Brouet juste après ce journal.
France Culture 8h08, suite du journal. En Australie, 6 millions d'hectares ont déjà été ravagés par les flammes. C'est l'équivalent de 2 fois la taille de la Belgique et les incendies pourraient encore gagner en intensité aujourd'hui.
Oui, le Premier ministre australien fait appel à 3000 militaires réservistes pour lutter contre ces feux qui embrasent le pays depuis le mois de septembre, alors que les conditions météo du week-end risquent encore d'aggraver la situation avec des températures qui dépassent les 40 degrés, des vents violents annoncés. L'état d'urgence a été décrété dans le sud-est de cette île continent, la région la plus peuplée. Et l'ordre a déjà été donné à plus de 100 000 personnes d'évacuer la zone. Une vingtaine de morts déjà à déplorer. À Canberra, nous rejoignons notre envoyé spécial sur place, Gaël Joly.
Sous une chaleur étouffante, plus de 40 degrés, le vent continue de souffler ici à Canberra. Au loin, les feux sévissent. Hier, l'état d'urgence a été décrété. Silvio a eu ordre d'évacuer avec sa famille depuis son village des Snowy Mountains, à 1 heure de là, noyé dans une épaisse fumée noire.
La commune, ils ont dit, vous devez quitter. Alors on a quitté hier, parce qu'ils pensent que le feu va arriver dans le village. Parce qu'on a des maisons, mais les prochaines 4 heures, on va voir.
Vous ne savez pas pour l'instant si votre maison elle est détruite ou pas, c'est ça?
Le problème, c'est quand le feu « jump », comme on dit en français.
Il saute.
Ça saute. Ça passe de sauter 20 km.
Plus de 100 000 personnes évacuées dans toute la région. Une petite centaine, comme Sylvio, ont atterri ici dans ce gymnase. Jasmine, une bénévole, leur offre à boire, à manger, quelques habits, des jouets pour les enfants et du réconfort. On a des gens traumatisés ici. Ils nous racontent ce qu'ils ont perdu, des maisons, des terres, des animaux, des chevaux. Je ne sais pas de quoi va être fait notre futur, mais ça va être de pire en pire. On va devenir tous des réfugiés climatiques. Et on l'entend ici de plus en plus, la colère gronde contre le gouvernement qui, selon eux, ferme obstinément les yeux face à l'évidence du réchauffement climatique.
Gaëlle Joly, envoyée spéciale de France Culture en Australie. Au Chili, les manifestations ont continué. Des milliers de personnes ont encore défilé hier dans la capitale Santiago. Près de 2 mois et demi après le début d'un mouvement social d'une ampleur inédite depuis la fin de la dictature de Pinochet en 90. Et hier, une église consacrée aux services religieux de la police chilienne a été incendiée par un groupe d'hommes encagoulés. Après 8 mois de blocage et 2 élections générales, l'Espagne va-t-elle enfin sortir de la crise politique? Pedro Sanchez, le chef du gouvernement socialiste sortant en tout cas, y croit, alors que commence aujourd'hui la session d'investiture au Parlement espagnol, au terme de laquelle les députés devront décider d'accorder ou non leur confiance à Pedro Sanchez. En principe, le socialiste devrait compter sur une courte majorité à la Chambre. En France, l'affaire Gabriel Matzneff a pris hier une tournure judiciaire avec l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol contre l'écrivain de 83 ans, mis en cause pour ses relations avec des mineurs dans un livre de l'éditrice Vanessa Springora. Une enquête pour viol commis sur mineurs de moins de 15 ans a été confiée à l'Office central de répression des violences faites aux personnes. L'ouverture de cette enquête survient 24 heures après la sortie du livre de Vanessa Springora intitulé Le consentement. Cette enquête préliminaire est le signe positif d'un changement d'époque, selon Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny.
Aujourd'hui, dans ce 21e siècle, la société et le parquet, qui en est l'expression, est sensible à ce que vivent les enfants, à l'acuité du trauma des enfants, et ne se contente pas, j'allais dire, d'une affirmation comme celle qui régnait à l'époque où Matzneff se pavanait, selon laquelle des adultes comme lui se dévouaient pour faire plaisir aux enfants et remplir leur droit à l'amour. On a réalisé depuis 20 ou 30 ans le trauma de toutes ces personnes qui avaient été violentées à l'école, violentées à l'église, violentées par des prédateurs comme Gabriel Matzneff. Et je crois qu'effectivement, il y a 30 ans, le parquet n'aurait pas pris l'initiative alors que la loi le lui aurait permis. Bon, donc le parquet avait effectivement l'instrument juridique, mais il ne pensait pas opportun d'engager des poursuites et de faire reproche à ceux qui avaient ce type de pratique. Aujourd'hui, c'est clair que le parquet a compris qu'on doit être dans un autre registre, on doit penser à la victime. Qu'aujourd'hui, le parquet veuille faire la vérité sur ce qui s'est réellement passé, indépendamment de toute plainte, c'est une bonne chose.
Jean-Pierre Rosenzweig, ancien président du tribunal pour enfants de Bobigny, répondait à Florence Turme pour France Culture. La piste terroriste n'est pas privilégiée pour l'instant après l'attaque de Villejuif hier. 1 mort et 2 blessés dans une attaque au couteau dans cette ville du Val-de-Marne. Un jeune homme de 22 ans, abattu ensuite par la police, a attaqué des passants dans un parc. Il présentait des troubles psychiatriques. Il aurait été converti à l'islam mais n'était pas fiché pour radicalisation, précise le parquet de Créteil. La réforme des retraites continue de mobiliser contre elle l'intersyndicale qui appelle à une manifestation les 9 et 11 janvier prochains, alors que ce week-end, une petite accalmie du côté des perturbations du trafic à la SNCF et à la RATP. Mais la semaine prochaine, donc, s'annonce déjà d'ores et déjà tendue. Le gouvernement rouvre les concertations sur cette réforme avec les syndicats mardi pour présenter un projet de loi le 24 janvier prochain au Conseil des ministres. L'intersyndicale donc appelle à manifester les 9 et 11 janvier. Elle appelle également à organiser des assemblées générales dans les entreprises. La CGT assure que le mouvement va se durcir, Annabelle Grelier.
Il n'était pas en vacances. Philippe Martinez n'a pas ménagé ses efforts cette semaine. Réunion, AG, distribution de tracts. Le patron de la CGT le sait, le mois de janvier sera décisif. Mardi débute un nouvel épisode de concertation avec le gouvernement. Et si la CGT dit n'avoir reçu aucune invitation, peu importe. Philippe Martinez réclame toujours le retrait du projet et assure que les Français ne veulent pas de cette réforme. Les fonds récoltés pour soutenir les grévistes en témoignent.
On reçoit tous les jours des dizaines de courriers, de mails, d'encouragement. Notre cagnotte de solidarité, rien qu'à la Confédération, va atteindre des 500 000 euros en 10 jours. Ça, c'est des vrais signes que le gouvernement devrait prendre en compte. Il y a ceux qui sont en grève dans cette période de trêve. Et puis il y a tous ceux qui soutiennent et qui seront dans l'action la semaine prochaine.
Dès mardi, la Fédération de la Chimie appelle au blocage des raffineries et dépôts de carburant. Blocage prévu également dans les ports. La Fédération Énergie promet aussi quelques actions coup de poing. Des électriciens et gaziers qui devraient entrer en grève illimitée à compter du jeudi. Plus généralement, l'intersyndicale appelle à élargir le mouvement.
Annabelle Grelier, côté circulation à SNCF aujourd'hui, 7 TGV sur 10, un TER sur 2 en moyenne, un intercité sur 3. Le temps du soleil dominant aujourd'hui, quelques brouillards ce matin, plus d'éclaircies cet après-midi, température moyenne comprise entre 0 et 12 degrés, avec 0 degré ce sera pour Chambéry, 5 degrés à Paris et à Lille, 8 degrés à Bordeaux et maximum 12 degrés c'est pour Perpignan.